Dimanche 3 janvier 2021. Nous avons quatre textes. Isaïe, chapitre 60, versets 1 à 6. Le psaume 71. La lettre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 2 à chapitre 3, 5, 6. Et puis l'évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Elle me semble étonnante, cette venue des mages. Ils arrivent de l'Orient, ils vont à Jérusalem, et en fait, ils ne savent pas où ils doivent aller. Et je me dis, est-ce que durant cette année, nous pourrions accepter de ne pas savoir où nous devons aller? Est-ce que nous pourrions nous poser des questions? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et puis, parfois, nous poserons des questions un peu à n'importe qui, parce que eux, ils vont poser cette question à Hérode, et Hérode, il va en prendre ombrage, parce qu'il ne va pas accepter qu'un autre roi puisse naître dans son entourage, pas loin de chez lui. Nous avons vu son étoile à l'Orient, nous sommes venus nous prosterner devant lui. Je ne suis pas bibliste, comme vous le savez, et je sais que ça a du sens, je ne sais pas quel sens ça a, que ces personnes, on dit qu'ils sont trois, mais dans le texte on ne dit pas qu'ils sont trois, que ces personnes, ces mages, qui ne font pas partie du groupe religieux de Jésus, qui ne font pas partie des Juifs, du peuple hébreu, qu'ils aient confiance dans cette étoile, confiance dans ce qu'ils ont entendu de cette étoile, et qui se disent, nous avons le désir d'aller nous prosterner devant le roi des Juifs. Est-ce que nous avons ce désir d'aller nous prosterner devant le roi des Juifs? Hérode va être bouleversé, très contrarié. Il va réunir tous les grands prêtres et plus tard, il va tuer tous les enfants nouveau-nés de moins de 2 ans qui sont nés à Bethléem. Ce sera une des plus grandes épreuves après la naissance de Jésus. Il convoque tout le monde et on lui dit « c'est à Bethléem ». Et voici ce qu'a écrit le prophète « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Nous n'avons pas ici, nous le verrons plus tard avec la vie de Jésus, nous n'avons pas ici un roi qui fera concurrence aux autres rois dans la manière d'être roi. Son autorité, il y aura une autorité de la parole, mais il y aura une autorité du geste. Il y aura une autorité du geste. Aller manger chez des pécheurs. Appeler des apôtres. Ça va vous sembler curieux, mais je suis en train de lire le livre Soif de Amélie Nothomb. Et je trouve très intéressant sa description de Judas. Et elle dit, alors c'est elle qui le dit, c'est pas un bibliste, mais je trouve intéressant nos approches diverses les uns des autres, surtout quand ça a du sens, et pour moi ça a beaucoup de sens. Jésus va choisir cet homme, il va y avoir une discussion, elle fait parler Judas et Jésus, et Jésus va choisir cet homme en lui disant, tu es mon ami, et l'autre lui dit, mais non, je ne suis pas ton ami. Et Jésus va insister régulièrement. Il va prendre à contre-pied la personne de Judas qui n'est jamais contente. Il est toujours rebelle. Il ne croit pas en l'amour. Et Jésus va le prendre. Et je trouve, ce n'est que mon opinion, mais je trouve que cette approche est intéressante dans le sens que Jésus n'a pas choisi 12 apôtres, n'aurait pas choisi 12 apôtres uniquement pour s'entendre, etc. Mais d'abord, au niveau individuel, il les choisit. Et si Pierre sera choisi pour être chef des apôtres, Judas sera choisi pour être aimé plus que tout. Je n'ai pas le livre à côté, mais je pense qu'à un moment donné, elle le dit, il est le plus grand ami de Jésus. C'est-à-dire, en fait, c'est un défi, Judas, dans ce que raconte Amélie Nothomb. Mais je trouve intéressant parce que dans nos communautés, nous choisissons que ceux qui nous ressemblent ou nous choisissons des personnes pour leur faire découvrir l'amour de Dieu. Ce bébé va faire découvrir l'amour de Dieu aux mages, mais aussi à Hérode, et Hérode, il n'y arrivera pas. Et puis, il y a cette phrase qui est très très belle en soi. Il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner, dit Hérode, avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Cette phrase n'a aucune fausse note. Et pourtant, elle est dans la perversion la plus complète. L'intention de Hérode, c'est de tuer cet enfant. Ce n'est pas de se prosterner devant lui. Et nous avons là un des multiples exemples de perversion qui seront dans les évangiles et dans la Bible. Le mal se présente en bien. La ténèbre se présente en lumière. Et puis, donc les mages vont partir et dès qu'ils partent, ils voient l'étoile. Il est tellement important de se mettre en mouvement. Je me le dis à moi-même quand j'ai pas envie de bouger, de se mettre en mouvement. C'est parce que je vais me mettre en mouvement que j'ai peut-être la providence de voir, la chance de voir l'étoile qui va réapparaître. Elle les précède. Ils sont partis, ils sont en mouvement. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère et ils ne voient pas Joseph. Est-il parti chercher le pain, parce que c'est le matin, pour le petit déjeuner? On ne sait pas. Mais Matthieu nous parle d'abord de Marie et de l'enfant. Or Joseph est tellement important dans cette famille. Alors il tombe à ses pieds, il tombe aux pieds de cet enfant. Est-ce que nous pouvons voir, repérer, quand c'est que nous sommes tombés devant une crèche? Quand c'est que nous sommes prosternés devant cet enfant? Et après, ils ouvrent leur coffret de l'or, de l'encens et de la myrrhe, et ils doivent être avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode. Cette journée des rois mages, c'est la journée d'une caractéristique mystérieuse. Le mystère, dit Paul aux Éphésiens chapitre 3, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous croyons que tous ceux qui ne viennent jamais à la messe dans nos familles sont associés au même héritage? La loi, c'est l'amour. S'ils déclenchent l'amour dans leur vie, ils accepteront d'entrer dans le royaume de Dieu. Et la grâce de Dieu s'accrochera à eux. Ils sont associés au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Et puis dans le texte d'Isaïe, chapitre 60, « Elle est venue ta lumière, la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. » Isaïe écrit ce texte dans un pays meurtri par les séquelles de la guerre, les difficultés de la reconstruction. Il fait retentir un langage d'espérance. Durant cette nouvelle année, est-ce qu'on va se contenter de dire « bonne année, bonne santé » ou est-ce qu'on va donner un langage d'espérance? Il y a des personnes qui m'ont écrit des petits mots avec un langage d'espérance. C'est très beau, c'est très touchant, C'est très vivifiant. Je souhaite que nous puissions nous souhaiter une bonne année. Cette année sera remplie de bonté, de vérité, de justice, de paix, d'humilité. Nous sommes des chercheurs, nous sommes à la recherche de la bonté de cette année qui vient. Bonne année. Véritable année. Une année où la justice sera recherchée, où les injustices seront combattues dans la paix, mais dans la vérité, où la vérité sera accueillie, une année où la vérité sera accueillie, une année de vie, même quand les moments seront très compliqués. Bonne année. Amen.